Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Donc, le premier grand débat vous se passe sur Radio France et France 2 en direct. Vous êtes tous réunis, vous êtes tous les quatre en tout cas, et c'est un débat qui a pour thème, grand thème, le salaire et l'emploi. Notre premier débat va porter sur la principale préoccupation des Français dans cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat. Jules de Kiss.
Alors, en effet, question centrale dans la France d'aujourd'hui, hein, là, on va parler un peu de la réalité, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat. Et au cœur de cette question même, il y a évidemment le sujet très important des salaires. Comment faire pour augmenter les salaires des Français? Évidemment, ceux qui veulent voter pour vous, vous le demandent. Il y a eu un dégel du point d'indice des fonctionnaires qui vient d'être annoncé pour être mis en place avant l'été. Le gouvernement appelle aussi les entreprises à faire des efforts sur la question des salaires. Et il y a le SMIC, la question du salaire minimum. Est-ce qu'il faut l'augmenter ou pas pour entraîner une espèce d'effet de ruissellement? La règle pour augmenter le SMIC, c'est que son montant augmente au moins autant que l'inflation, au moins autant que les prix. Il doit suivre l'inflation. Mais le gouvernement peut aussi décider d'aller au-delà et de faire ce qu'on appelle un coup de pouce, au SMIC. Mais ça, c'est fait que très, très rarement. On écoute à ce sujet les précisions du service Écho de France Info.
C'est devenu une ritournelle. Tous les ans, depuis sa création, le groupe d'experts qui conseille l'exécutif répète la même phrase. Pas de coup de pouce au SMIC, en plus de la revalorisation légale. Une recommandation appliquée à la lettre par tous les gouvernements, sauf une fois en 2012, sous le quinquennat Hollande. En fin d'année dernière, le message est resté identique. Tout comme les arguments, il ne faut pas augmenter le coût du travail, ni casser la reprise. Et ils ont été écoutés. Le SMIC a donc été revalorisé d'un peu moins d'1% au début 2022 pour suivre l'inflation, après déjà deux hausses l'an dernier. Et comme les prix continuent de monter, on s'achemine vers une nouvelle hausse automatique du SMIC au début de l'été. Aujourd'hui, le salaire minimum est de 1 603 € brut mensuel, soit 10,57 € de l'heure.
Voilà, donc salaire net pour le SMIC, c'est autour d'à peine moins que 1 300 € net mensuel. Les prévisions pour la hausse à venir du mois de juillet, si ça suit l'évolution logique des prix prévus par l'INSEE, ça devrait être autour de 2%. Mais si c'est le cas, on ne ferait que rattraper la montée du niveau des prix, l'inflation, et donc pas de gain de pouvoir d'achat.
Je rappelle que, bien que je distribue des voix, c'est maintenant vous, spectateurs, qui allez décider qui va remporter ce débat qui commence, qui va être en trois parties, en deux parties, qui commence sur le SMIC. Donc c'est un tweet qu'on a fait sur le compte Coffroll. Vous répondez suivant la personne qui aura le plus gagné. Le tweet n'est pas encore envoyé, il sera envoyé en plein milieu du débat parce que les petits malins qui sont fans de Didier, de Charles ou de Véronique ou de Marcel, ils commencent à voter parce que vous avez des comités de soutien. En tout cas, oui, le tweet, alors me dit la régie, ce sera juste après le débat. Donc, concentrez-vous sur le débat. Réfléchissez bien à qui est le meilleur intervenant. Ben, je me tourne vers Marcel qui a fait une déclaration choc qui a malheureusement très peu marché quand il l'a fait.
Oh, elle a pas si mal marché.
Avec une question
que ça,
très simple. Marcel, je me doute de votre réponse, mais je vous la pose. Faut-il ou non augmenter le SMIC?
Alors, je ne sais pas si vous doutez de ma réponse, parce que le problème, monsieur Fibre-Tigre, ça n'est pas le SMIC, c'est le salaire. Au fond, et je crois qu'il faut remonter à ce qui fait le quotidien des Françaises et des Français. Qu'est-ce que c'est que le salaire, sinon une relation de dépendance, un rapport de force totalement déséquilibré entre ceux qui possèdent tout en France? Parce que oui, en France, certains possèdent tout. On le rappelle quand même qu'en France, les 5 premières fortunes de France possèdent autant que les 27 millions des plus pauvres. Et donc, ce sont eux qui donnent gentiment, parce qu'ils le veulent bien, une maigre part du salaire. Donc il faut sortir de tout ça. Enfin, rendez-vous compte que ces 10 dernières années, un quart des entreprises du CAC 40 ont versé plus de dividendes qu'elles n'ont fait de bénéfices. C'est-à-dire qu'elles ont été prendre dans leurs réserves pour donner de l'argent aux riches en France, à ceux qui ont déjà trop, au lieu de le donner en quoi ? eh bien en salaire. Donc sortons du véritable problème, le seul véritable problème qui est le système capitaliste. On va nationaliser, collectiviser l'économie, elle sera ainsi beaucoup mieux gérée. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne un salaire à vie, on reconnaît les personnes comme productives, 2500 euros, et derrière on indexe ça bien sûr sur l'inflation.
Attends, on n'est pas, pas à 2500 euros.
Alors,
donc,
Charles, Charles de Spie qui prend la parole, je vous écoute, est-ce que vous voulez réagir? Et vous pouvez également dire pour ou contre, augmenter ou diminuer le SMIC, sachant que la compétitivité en pâtira, diront les entrepreneurs.
Bien sûr, j'écoute, monsieur le milliardaire.
Mais Marcel, vous êtes tellement mignon. J'aime des fois écouter vos podcasts pour m'endormir.
Oui, oui.
Car ce sont des contes de fées qui me détendent.
À travers moi, vous méprisez les Français, voilà, monsieur, mais on essaye de vous écouter.
Déjà, dans toutes mes entreprises, le salaire est de 23% au-dessus du salaire médian français de base.
Vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon.
Après,
vos gens vous en sont gré.
Encore une fois, je pense que vous avez plein de bonnes volontés, mais vous n'avez pas les bonnes méthodes et les bons constats. Le problème, ce n'est pas le salaire. Le problème, c'est évidemment l'inflation. Pourquoi il y a un problème d'inflation? Parce que nous avons un système monétaire fiduciaire qui fait imprimer de la planche à billets, qui fait qu'on a beau payer les gens plus, ils gagnent moins à la fin. C'est complètement débile. Encore une fois, je vous regarde dans les yeux, cher sujet de cette France royale que je propose. Vous savez très bien ce qui nous attend. C'est une fuite en avant. Et le système actuel ne vous permettra que de vous mettre des œillères pour ne pas voir la réalité du fait qu'on imprime toujours plus d'argent, on dévalorise votre argent. Et même si demain vous gagnez de 1500 à 2500 euros, très beau lapsus révélateur, mon cher Marcel, vous gagnerez moins de 1500 euros dans 5 ans.
Vous ne marquerez pas un seul point là-dessus.
Le plus
monsieur,
important ici, c'est de changer de système
ça
de monnaie.
Ça ne vous honore pas.
Il faut changer de système de monnaie. Il faut une monnaie déflationniste. Aujourd'hui, le système monétaire dominant et le système monétaire capitaliste, qui m'a d'ailleurs bien réussi, donc je suis bien placé pour le savoir, est un système monétaire inflationniste. Il faut une monnaie déflationniste. Une solution que les crypto-monnaies, par exemple, proposent très naturellement.
Nous y sommes. Le crypto-euro, alors
j'attendais, j'avais un chrono avant, crypto-monnaie.
Didier Vert, vous voulez réagir à la crypto-monnaie également. Avant de réagir, si vous me permettez, faut-il augmenter ou diminuer le SMIC?
Augmenter ou diminuer le SMIC? Ici, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de valeur par le mot et le vecteur de l'argent. Mais la valeur de l'humain, ce n'est pas forcément que la valeur monétaire. C'est aussi toute sa connaissance et ce qu'il a apporté au monde. C'est très important de le savoir parce que, visiblement, si on écoute que ce soit M. Couré ou M. De Spie, tout passe par le vecteur argent. Mais le monde et l'humain a beaucoup plus à proposer que simplement gagner du salaire, distribuer de l'argent, acheter des choses. Il peut aussi montrer la voie et définir une autre façon de penser et de concevoir la valeur humaine.
Alors, on est d'accord qu'il n'a rien dit. Non, mais ça, c'est voilà, mais ça, voilà.
Ça n'aidera pas les gens à remplir leur frigo.
Alors
on vous écoute, monsieur
c'est
Vert.
C'est totalement vrai. Ça n'aidera pas les gens à remplir leur frigo. Mais donner 2500 euros à tout le monde n'aidera pas non plus, les gens à être de meilleures personnes.
Vous bottez en touche. On augmente et on diminue pas le SMIC.
Non. Moi, j'ai un programme. Pollueur, payeur. C'est bien simple, à chaque fois que l'on pollue, les grandes entreprises, les organismes
je
de crypto-monnaies,
et les crypto-monnaies,
la totalité des services cloud là, qui font fondre la moitié de la banquise de l'Antarctique, pollueurs, payeurs. Évidemment, et là je vais rejoindre quand même un peu Couré, bizarrement, les riches de ce monde polluent beaucoup plus que les pauvres. Car on voudrait faire tout porter sur les pauvres. On leur dit « faites des efforts, roulez moins, prenez le vélo ». Mais ce n'est pas les pauvres qui polluent, ce sont les grandes entreprises qui ravagent le monde aujourd'hui. Ils doivent absolument redonner la valeur de la pollution aux gens qui ont besoin de cet argent.
Merci Didier, on a bien compris, c'était très clair. Véronique, vous n'avez pas intervenu, est-ce que vous voulez réagir à un de vos concurrents ou même dire...
Mais à l'ensemble, parce que la question du pouvoir d'achat, c'est quelque chose de sérieux. Et moi, je n'ai rien entendu de sérieux. Alors, Monsieur Couré, rêve de Corée du Nord. Et je tiens à lui rappeler les salariés du CAC 40 sont les mieux traités aujourd'hui en France. Monsieur De Spie essaie de faire comme s'il connaissait quelque chose à l'économie. Manifestement, il n'y connaît rien. Et par ailleurs, je tiens à dire que nous avons accueilli un écosystème favorable aux cryptos. Quant à Monsieur De Vert, lui, il rêve de quoi? Il rêve de la France avec des gros pulls qui piquent. Il revenir à la bougie.
Non, absolument pas. Absolument pas.
C'est sérieux, la question du pouvoir d'achat, c'est sérieux. Alors, qui crée la richesse? Parce que oui, moi j'ai envie de dire aux Français, et oui, il faut augmenter un petit peu le SMIC, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses, malheureusement, et on le regrette. Qui crée la richesse? Ben, ce sont nos entreprises. Alors moi, ce que je propose, c'est très simple, c'est un programme, une entreprise, zéro impôt. Une entreprise créée, zéro impôt, zéro cotisation sociale, zéro charge, zéro impôt. Et puis, je rêve aussi de Français qui s'intéressent à l'actionnariat, qui prennent leur vie en main.
Alors,
je vais lancer le programme Un Français, 10 actions. Ce sera 10 actions qui seront données à chaque Français. Voilà, c'est ça l'économie.
Mais autant leur demander directement d'investir dans l'Ethereum ou dans la crypto-monnaie. C'est absolument la même chose.
Vous remettez
les biens des Français sur...
On a bien compris.
De la spéculation pure.
En tout cas,
ça n'a aucun sens.
Il faut pas insulter l'innovation.
Non, mais il faut quand même rappeler, Madame Solette a dit une chose juste. Elle a dit, ce sont les entreprises qui créent la valeur en France. Alors, par parenthèse, elle pourrait créer beaucoup plus de valeur parce que les choses sont mieux gérées quand
si
elles
elle
sont gérées.
Moins de charges sociales,
quand elles sont gérées,
oui,
pas du tout, madame. Les choses sont mieux gérées quand elles sont gérées en commun. Je vous le démontrerai tout à l'heure.
Mais soit
j'en suis parfaitement capable. Alors, je peux vous citer tous les chiffres si vous voulez, mais je suis pas sûr que bon.
Non, vous êtes. Excusez-moi.
On aimerait bien.
Je vous les donne, madame. Regardez, mais vous êtes maire. Très bien.
Alors,
parlons de vos entreprises qui gèrent très mal l'argent, il faut le dire. Aux États-Unis, le système de santé, par exemple, un exemple très concret, le système de santé est géré de manière privée par ces entreprises que vous valorisez. Les dépenses de santé des Américains représentent 17% de la valeur du PIB. Les Américains dépensent beaucoup d'argent pour se soigner fort mal. En France, où la santé est nationalisée, nous dépensons 11% du PIB en dépenses de santé et nous avons une des santé les mieux soignées du monde.
Vrai,
donc ça montre bien que vos entreprises gèrent mal. Par ailleurs, les entreprises, madame, et je terminerai avec ce chiffre. Je terminerai avec ce chiffre sérieux puisque vous ne l'êtes pas vous. Effectivement, les entreprises créent de la valeur. Pendant la crise sanitaire, les entreprises françaises, les entreprises du CAC 40, vos idoles, ont créé 36 milliards d'euros de valeur qu'elles ont redistribuées en dividendes. Ça crée de la valeur, mais ça ne fait pas de l'emploi.
Merci Marcel. Je remarque que Charles de Spi, il a entendu la proposition de zéro entreprise, enfin une entreprise zéro impôt, il n'a rien dit. Et nous allons passer à ce deuxième volet de salaire et pouvoir d'achat. Jules de Kiss, augmenter les salaires, c'est bien. Mais si le coût de la vie augmente encore plus, comme l'a souligné Charles,
Exactement. Alors
on perd du pouvoir d'achat. Et on le voit bien avec la question difficile, qu'est-ce qui augmente beaucoup en ce moment et qui fait du mal aux Français? De l'essence, très bien. Tiens, je te donne un petit classe moyenne qui souffre. Et
ça récompense les faillots.
Non, c'est pas ça, mais
il est au courant des Français.
T'es proche du maître du jeu, surtout.
Il est au courant de la souffrance des Français, mais pourtant, il est contre l'essence.
Je suis avec eux, à vélo tous les matins.
Le syndrome du premier rang et le prof t'entend mieux.
En tout cas, voilà. Jules, je vous écoute.
Alors, c'est vrai que là, les prix ont recommencé à baisser depuis quelques jours, mais on a vu que les prix ont flambé ces dernières semaines, notamment à cause de la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix du pétrole, le prix du litre qui augmente les 2 euros dans presque toutes les stations. Avant cela, il faut s'en souvenir, le prix de l'électricité et du gaz avait aussi augmenté. Là, c'était plutôt du fait de la reprise économique après la crise sanitaire, en plein hiver, pendant que tout le monde se chauffe. Et donc, tout cela rogne le budget des Français. Pour la question des carburants, ça rogne le budget des entreprises et des ménages qui utilisent des véhicules. Illustration avec ce reportage France Info il y a quelques jours, tourné par Valentin Winato à Luisan, près de Chartres.
Ce matin, à la pompe et sous la pluie...
Ça fait chier, pardon.
Ouais. Je vois le plein sur le petit écran, 82 euros.
Ouais, c'est pas mon record, c'est descendu un petit peu. J'ai fait 105 la semaine dernière. D'accord. Je fais un 2 pleins par semaine.
Ouais, on essaie de faire un peu attention. Après, comme on habite en campagne, on est obligé... On n'a pas trop le choix, mais on essaie de faire un peu plus attention. Bah, limiter certains déplacements qui n'étaient pas forcément utiles. Comme des fois, aller voir des amis ou simplement aller faire les magasins ou quand on n'en a pas besoin. Ouais. Du coup, on limite, on essaie d'optimiser.
Pourtant, dans cette station, les prix commencent à baisser, explique le gérant Sébastien Petitpas.
On est passé sous les 2 euros, ce qui est psychologique pour la clientèle. On a perdu 26 centimes en quelques jours, en 4-5 jours.
Résultat,
le week-end, nous avons très très bien travaillé. Nous avons multiplié nos ventes depuis, on va dire, samedi, vendredi après-midi multiplié par 2,5.
Mais les prix de l'énergie et du carburant inquiètent forcément les professionnels, comme Steven Lefrançois. Il dirige une entreprise de transport routier à Dreux, en Eure-et-Loire.
Si on parle de consommation, on achète 160 000 litres de gasoil par mois,
mais quand même.
Ce qui représente limite 100 000 euros d'augmentation aujourd'hui sur un mois de mars par rapport à un mois de mars 2021. Nous avons une indexation néanmoins sur nos tarifs qui permet de refacturer aux clients une partie. Et on a un écart qui reste encore à notre charge, qui est de 40 000 euros, qu'il va falloir retourner voir les clients pour leur annoncer des hausses importantes. Aujourd'hui, on travaille à perte.
Et selon lui, des mobilisations et grèves des professionnels sont à craindre si la situation perdure.
Donc on a pu observer d'ailleurs hein, des blocages, notamment sur des ronds-points. Les routiers qui ont reçu des aides sectorielles du gouvernement, tout comme les pêcheurs, tout comme les agriculteurs. Il y a aussi ces fameux 15 centimes de remise en caisse pour chaque litre de carburant acheté. Ça sera à partir du 1er avril. Cela s'ajoute aussi au chèque inflation, au bouclier tarifaire. Et l'ensemble de ces mesures coûte entre 25 et 30 milliards d'euros hein, depuis l'automne dernier. Sur la question des carburants, il y a aussi cette idée que l'État rend en partie les taxes qu'il récupère en plus dues à la flambée des prix de l'essence et du gasoil.
Merci Jules. Je me tourne vers Véronique. Véronique, parmi vos solutions pouvoir d'achat, je vous ai entendu tout à l'heure et vous avez dit « un Français, 10 actions ». Mais en fait, ces 10 actions, est-ce qu'elles vont permettre aux gens, finalement, de payer les factures à la fin du mois?
Ah non, ça fait partie, ça aide. C'est un complément qui
Alors,
est...
Comment vous allez les aider, vous, présidente?
Moi, présidente, sur la question de l'énergie, c'est relativement simple. Quel est le problème de l'énergie aujourd'hui en France? Quand on va à la pompe à essence, c'est quoi? C'est les taxes. Donc déjà, un plein, zéro taxe. Je pense que ça, c'est le principal.
Donc vous allez diminuer le coût de l'essence de 80%?
Ben, vous voulez, faire comment aujourd'hui? Vous voulez laisser les Français dans cette situation? Moi, personnellement, je ne prends pas cette responsabilité-là. Moi, je veux que
les Français
puissent aller travailler, puissent profiter de la vie, puissent aller voir leurs amis.
Donc votre solution, c'est de baisser les taxes?
Zéro taxe. Ensuite, je crois qu'il faut aussi regarder les principes de la réalité. Oui, on est dans une crise difficile avec la Russie, c'est vrai, mais ce n'est pas rapatrier nos entreprises sur notre territoire et les faire sortir de Russie qui va nous aider à gagner ce bras de fer avec la Russie. Je crois qu'il faut regarder un peu la situation en face. Donc, il faut continuer à soutenir nos grandes entreprises de l'énergie qui en ont bien besoin aujourd'hui et qui permettront de créer de l'emploi en leur sein, mais aussi sur le reste de l'écosystème national.
Donc, une solution pragmatique à l'essence. Je me tourne vers quelqu'un qui n'aime bien pas trop l'essence, mais qui est au courant. Didier.
Il aime les pulls qui piquent toujours. Hein.
Didier, le pull qui pique, on voit que...
Il n'y a pas de pull qui pique ici. Il y a des façons intelligentes de faire les choses. Ça fait 40 ans qu'on vous dit qu'il ne faut pas miser sur les énergies fossiles, que ça finira par augmenter. On arrive à un cas absurde où avec une heure de SMIC, on ne peut plus payer que 5 litres d'essence. Mais où est-ce que l'on est? Et encore une fois, ce sont les gens qui ont de faibles salaires qui vont pâtir de tout ça. Parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts. Mais le monsieur dans son Lamborghini Urus que j'ai croisé à vélo en venant ici dans les locaux de France Inter, il en a rien à foutre que l'essence y soit à 2 euros. Il va même à la pompe à 2,60 pour dire qu'il a payé plus cher à ses amis soirées.
À part dire c'est trop tard, je vous l'avais bien dit. Concrètement, vous aidez comment les gens à passer la...
Il faut aider les petits salaires qui ont un besoin vital de se déplacer à avoir accès à une énergie moins chère. Ça passe par des aides de l'État et ça passe par la taxation des gros pollueurs.
Mais c'est ce que fait déjà le gouvernement Macron. C'est l'objet de ce que vous venez d'écouter.
Ce n'est pas assez. Et ce n'est pas assez pour des millions de Français qui sont totalement pris au piège de cette essence. Il faut proposer plus que ça, une transition écologique,
vers quoi ?
Changement vers des solutions de transport et de mobilité plus douces,
qui sont
vers l'électrique, vers des mobilités...
Évidemment,
c'est absurde. Et pourquoi les plus chères? Parce que c'est Charles de Spy qui possède la quasi-totalité des mines de matière pour fabriquer les batteries électriques.
Alors, la Lamborghini, voilà. Elle est à moi aussi.
Alors, c'est bien.
La Lamborghini est à lui aussi.
Vous accusez Charles. Charles, je vous écoute. Charles, quel est le... Alors, il y a plein de choses. Il y a à la fois, vous possédez les voitures électriques, si je comprends bien, mais vous avez... Comment la personne qui n'a pas vos revenus, le Français moyen, qui a du mal à joindre les deux bouts, vous faites quoi? Vous le donnez un peu de votre argent?
La grille. La grille. La grille. Qu'est-ce que c'est que la grille? C'est un des projets que je vais défendre pour sortir de notre dépendance au pétrole et avoir surtout des transports plus intelligents. Il faut que le royaume de France, à un moment, au lieu que tout le monde ait sa propre carriole et ses propres choses, c'est complètement débile, bien sûr, mais c'est ce quoi, vers quoi le capitalisme classique nous a poussé, eh bien, réapprenne à partager de manière plus intelligente, de manière plus connectée. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, si nous travaillons avec un système de voitures intelligentes, autonomes, avec des énergies vertes, que je pousse également à travers mes nombreuses entreprises, je suis d'ailleurs un des premiers actionnaires de Tesla, eh bien, on pourrait avoir...
Tesla qui a encore augmenté de 10 000 euros le prix de son modèle accessible.
Hein. Ça, c'est à cause des Chinois, c'est encore autre chose.
Ouais. Mais c'est toujours de la faute des autres.
On aurait besoin aujourd'hui de 42 fois moins de véhicules autonomes que de véhicules actuels pour transporter le monde entier et les marchandises entières.
Je ne comprends pas bien ce que vous avez dit par la grille. Qu'est-ce que c'est ?
La grille, c'est the grid. C'est-à-dire
la grille.
Les gens, les voitures, les maisons, les stations de recharge, etc. seront tous et toutes connectés par mon logiciel, qui s'appelle d'ailleurs Verse AI. Verse AI, donc intelligence artificielle. Et qui comprendra qui va où, qui a besoin d'énergie, qui peut pomper l'énergie, à quel moment, où est-ce qu'il y a des manques, etc. Où est-ce qu'il y a des sorties de bureau, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il n'y a plus personne qui utilise ses voitures. Et on aura besoin de moins de véhicules, parce que ce n'est pas une question d'énergie, encore une fois, le problème. Le problème, c'est que les gens consomment trop. Passer de tous les Français et toutes les Françaises ont des voitures à essence, à tous les Français et toutes les Françaises ont des voitures électriques, ce n'est que déplacer le problème.
Je vais poser deux questions.
Deux solutions.
Encore une fois, je suis quelqu'un qui est radical.
Il est en train de faire la publicité pour ses propres entreprises.
J'ai fait la publicité pour ma propre entreprise, mais sa proposition la plus à gauche jusqu'à présent.
Oui.
Une seule question.
Encore une fois. Ces gens-là proposent des rustines. Je propose de réinventer la roue.
D'accord, mais la grille, c'est pour quand? C'est pour vous, président.
Si je suis élu président, c'est ce que j'ai annoncé avec mon logiciel donc, et mon programme de roi.
Oh là là.
Mon logiciel, il serait développé en 3 ans.
Oui, mais
il faudra
c'est maintenant
3 ans.
Que les Français sont en train de souffrir. Excusez-moi, exactement. C'est parfaitement irresponsable. Mais
s'ils souffrent maintenant, c'est à cause des décisions que vous avez prises pendant ces 20 dernières années.
C'est pas comme si c'était le premier choc pétrolier. Toujours. C'était pas comme si ça faisait 40 ans qu'on était dépendant de la Russie, du Moyen-Orient, d'un bout des États-Unis, d'un bout de la Norvège.
Oui, bon, on a compris. Ça fait 40 ans qu'on fait rien jusqu'à ce que vous soyez encore
plus. Ça fait 40 ans qu'on met des rustines. Donnez-moi le temps de faire une vraie disruption.
On a compris. 3 ans, la grille, et c'est très clair. Mais c'est aussi, on a compris aussi votre positionnement. Marcel.
On a compris ce que proposait Monsieur Spi.
La grille, les aides, le pouvoir d'achat.
Je vais vous répondre, monsieur Fibre-Tigre. Je vais essayer d'être sérieux. Donc, monsieur Spi,
oui, parce que vous n'étiez pas.
Il faut revenir, je le suis plus que vous. Ce que propose monsieur Spi, finalement, c'est de nous vendre son propre produit. Et donc, à travers la campagne présidentielle, il fait sa pub. Très bien, bravo. Vous êtes déjà milliardaire, vous voulez devenir multimilliardaire. Personne c'est très bien. Je vais de toute façon tout vous prendre. Donc, nous n'en parlerons plus bientôt.
Tout cela sera nationalisé.
J'aimerais quand même parler. Alors, monsieur Vert, qui est. Parlons d'abord de vous, madame Solette. Alors, madame Solette, c'est quand même formidable. Elle veut faire zéro taxe sur l'essence. Alors, tout à l'heure,
c'est
elle disait zéro taxe sur la création des sociétés, maintenant zéro taxe sur l'essence. Bon, ce que propose Madame Solette, c'est de supprimer toutes les taxes. Alors, les gens qui nous entendent se disent, formidable, mais il faut quand même préciser que zéro taxe, ça veut dire zéro service public. Alors, Madame Solette, au pouvoir, qu'est-ce que c'est? La première année, on supprime toutes les taxes, tout le monde est content, et puis 2 ans après, on dit, l'hôpital ne marche plus, ça coûte trop d'argent, ça coûte trop d'argent, il faut couper dans l'hôpital, à l'école coûte trop d'argent, il faut couper dans l'école. Donc, ce que vous proposez, c'est la fin des services publics, et finalement, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, et les pauvres vont être encore plus pauvres.
Bon,
quant à Monsieur Vert, alors Monsieur Vert, c'est peut-être le moins pire, mais quand même, lui, ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas conséquent, il identifie bien les problèmes, mais il n'a pas les bonnes solutions. Il nous dit, les pauvres
ont
besoin...
Oui, parce que votre solution est long-termiste, peut-être.
Vous allez voir. Il nous dit, les pauvres ne peuvent plus prendre leur voiture alors qu'ils en ont besoin. Vous avez raison. Et donc, votre solution, c'est quoi? Des aides de l'État, moyennant quoi? Ce qu'on grève, encore une fois, c'est le budget de l'État. Bon, le problème...
aides venant des riches, les aides venant des pollueurs.
Mais vous faites la moitié du chemin, monsieur.
Il n'y a aucune moitié
vous fais
de chemin.
Crédit, vous faites la moitié du chemin. Si vous ne passiez pas votre temps à coucher avec votre assistante, vous auriez peut-être pu faire l'autre moitié.
Mais c'est vrai que
avec Jean-Jacques Bourdin, ça fait une bonne perte en entretien.
Monsieur Fibre-Tigre, la solution, elle est simple. Et il y a quelque chose que personne ici ne dit parce que ça les gêne, parce qu'ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas conséquents. Qui fait le plus de profit aujourd'hui avec cette augmentation de l'essence? Ce sont les énergéticiens.
Ou la Russie. Total énergie. Quel est votre rapport avec la Russie?
Mais on parlera de mon rapport à la Russie tout à l'heure.
Si ça vous gêne,
mais il y aura un débat, on en parlera.
Et vous allez voir que je suis
conséquent et cohérent. Total Energy a réalisé des dizaines de milliards d'euros de profits. Le problème, c'est quoi? C'est que les énergies sont gérées par des groupes privés qui sont des profiteurs de guerre,
c'est une entreprise
profiteurs d'inégalité. La solution est simple. Et si on veut être conséquent, il faut reconnaître que le problème comme partout, c'est le système capitaliste, que la solution, c'est de nationaliser les entreprises énergétiques, exactement comme nous avons nationalisé la Société nationale des chemins de fer. Tout ceci, c'est un bien commun. Cela doit être géré en commun par les Français. La solution est simple. Et tous ceux qui proposent autre chose ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent.
Je suis désolé, on va arrêter. Je sais que vous avez envie de réagir.
Ah ouais.
Ah, y a zéro solution de court terme. Pardon, hein. Les Français peuvent.
Ah bah vous allez voir que si on nationalise Total Energy et qu'on utilise leurs dizaines de milliards d'euros.
Je suis désolé,
dizaines de milliards d'euros.
Ça va être compliqué. C'est déjà trop tard.
Avec les dizaines d'euros de milliards de voilà, vous avez compris quoi.
Mais vous inquiétez pas. Il y a des questions qui ont été posées. Vous pouvez vous exprimer notamment sur le sujet de la Russie bientôt. Ne vous inquiétez pas.
Ah.
Alors, c'est l'heure des résultats. Est-ce que la régie peut nous envoyer les votes, le compte rendu des votes? Vous avez voté pour qui? Je ne vois pas trop. Ah non, c'est marqué là. Ouh là là, c'est serré avec un Marcel Courret.
Mais enfin, c'est un vote irresponsable.
C'est un vote un peu irresponsable.
C'est le populisme total. Je propose de l'argent à tout le monde.
Les Françaises et les Français sont sérieux. Ils ont compris où était le vrai problème.
J'ai hâte de voir un pays sans entreprise. Ça va être vraiment très drôle.
En tout cas, tu gagnes un retraité, un classe moyenne, un étudiant, un précaire et un bobo. Voilà, 5 voix. Et le deuxième, c'est Didier Vert, qui a convaincu Didier Vert, donc encore un bobo, un entrepreneur qui voit peut-être l'idée de faire des vélos et de rechanger, on va dire.
Il y a énormément d'emplois à créer avec l'écologie.
Et il y a des étudiants qui aiment bien les vélos.
Ça y est, des emplois d'été, ça suffit maintenant.
Tu vas me donner une de tes voix parce qu'on a, évoqué une de tes casseroles. Donc la celle que tu veux.
Grosse casserole, j'ai couché avec une femme, incroyable.
Merci.
En plus, excuse pas. Hein.
C'est parti, nous allons commencer par Charles. Charles, c'est ton donc Skynet. Oui,
tout à fait.
Skynet te dit, peut-être c'est le moment de faire un meeting ou une déclaration choc à la télé. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah évidemment.
D'accord.
Bien sûr.
Donc, meeting, on va en province. On peut tomber sur une grosse ville, une petite ville. Je ne sais pas trop où ça.
J'ai envie d'être dans une ville en province parce que la décentralisation, c'est quelque chose que je porte.
Alors, tu vas me dire un chiffre, une lettre de l'alphabet, n'importe laquelle.
Une lettre de l'alphabet?
Oui, une lettre de l'alphabet.
H.
H, c'est un meeting, malheureusement. Alors, le seul truc que te trouve Skynet, dans la ville de Tours. Alors, pourquoi je dis malheureusement
Tu viens d'insulter la moitié du streaming français. Après, je dis ça, je dis rien, mais voilà.
Et oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 136 000 habitants à Tours, contrairement à Marseille, où il y a 800 000 habitants. Donc, en fait, l'enjeu du meeting, c'est deux voix.
D'accord.
Alors, tu arrives à Tours, et il va falloir que tu fasses un petit discours en utilisant le gentilé, cher. Par exemple, cher Parisien, Parisienne.
Cher Tourangeau, Tourangelle, voilà, parce que j'aime Tours.
Voilà. Ensuite, deuxième point, il va falloir que tu parles de la ville de Tours.
Bien sûr.
La ville de Tours est extraordinaire parce que... Et tu vas parler des problèmes de la ville de Tours. La ville de Tours a ces problèmes-là et je vais les résoudre. Voilà. Je t'écoute.
Ok. Donc j'arrive à Tours, très bien.
Oui. Alors, vas-y, tu fais ton discours devant des gens qui sont venus te voir.
Alors, Tourangeau, Tourangelle, je suis déjà ravi d'être dans cette ville de Tours, une ville que j'avais évidemment... choisi.
Excuse-moi, c'est bien dit Tourangeau, Tourangère.
Tourangelle.
Ah oui,
bien sûr.
Enfin, bien sûr.
Non, mais je vérifiais. Voilà.
Alors. C'est de plus une ville chargée d'histoire. Hein. J'ai moi-même descendu tous les châteaux de la Loire avec mon ami Stéphane Bern. On s'est beaucoup amusé. J'aime beaucoup cette ville. J'aime beaucoup cette ville. Et je sais aussi que c'est une ville qui souffre, puisque ce sont ces villes qui sont intéressantes. Et pourquoi elles sont intéressantes? Parce qu'elles ne sont pas chères pour les Parisiens et les Franciliens. C'est ça la France d'aujourd'hui. Le problème de la France d'aujourd'hui, et comme toujours pour des très belles villes comme Tours, c'est que si vous n'êtes pas dans le club des 5, vous ne pouvez pas sortir de l'ombre de Paris et de sa région tentaculaire, l'Île-de-France, et que, encore une fois, des décennies, des gouvernements de divers pays n'ont pas réussi à désengorger. Moi, président, je décentraliserai, puisque la décentralisation est un point important du Web 3.0, mais c'est aussi un point important de la France 2.0. Je décentraliserai pour de vrai la France. J'irai là où M. Bérégovoy n'a jamais pu aller, avec son destin funeste, malheureusement. Je dispatcherai les serveurs de mon gouvernement, je dispatcherai les ministères aussi dans divers villes, et Tours accueillera un ministère.
J'ai bien entendu. On va lancer un dé, on va rajouter un, parce que c'est un discours qui était bien fait. Et c'est un 6.
C'est propre.
Comment ça va, Tours ?
Alors, Gilles de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé hier ?
Au-dessus de ça, c'est le soleil. Se félicite-t-on dans l'entourage de Charles de Spie. Il est vrai que son dernier meeting a impressionné jusqu'à ses adversaires. L'image marquante de cette grande réunion publique en plein air, c'est cette standing ovation interminable. Une foule de militants conquis, pour la plupart vêtus de t-shirts, de casquettes à l'effigie de Charles de Spie, RNRN.
Exactement. Alors, et en plus, la ville de Tours, désormais, est un fief imprenable. Tous les gens, s'il y a des gens qui vont à Tours, oh là c'est là impossible, là. Elle est acquise à toi. Tu gagnes deux entrepreneurs et un super riche, convaincu par ton action. Alors, Didier, il y a ton au minéral qui dit... Charles, il a mis un grand coup, là. Alors, du coup, ça me donne envie de faire un meeting, ce qui serait pas mal. Mais par contre, à cette casserole, peut-être faudrait... Faudrait peut-être en parler et comme ça on s'en débarrasse.
Non.
Donc tu l'assumes. Oui. Alors meeting, déclaration choc à la télé.
Un meeting.
On peut aussi trouver un dossier.
Non, ça ira.
Un meeting.
J'en ai déjà un en plus.
On s'est débarrassé.
Oui. Non, je crois qu'il l'a enlevé. En tout cas, dis-moi une lettre. Donc tu vas faire un meeting. Dis-moi une lettre de l'alphabet.
Une lettre de l'alphabet, le Y.
Le Y. Ce sera un meeting à Grenoble. 157 000 habitants. Donc tu vas à Grenoble. Donc la même chose. Cher Parisien, Parisienne, pourquoi Grenoble c'est super et quel est le problème de Grenoble ? Je t'écoute.
Chers Grenoblois et Grenobloises, bonjour et je suis ravi d'être dans votre ville. Aujourd'hui, je viens vous proposer de faire des efforts pour avoir une transition écologique souple. C'est difficile, j'ai le rôle du mauvais candidat. Comme à chaque fois, je suis obligé ici de vous rappeler que les enjeux sont forts. Regardez autour de vous, très chers Grenoblois, Grenobloises, toutes ces montagnes qui vous entourent, toutes ces montagnes qui vous font vivre cette neige qui est présente ici durant la moitié de l'année. Durant les 30 dernières années, vous avez perdu un mois d'enneigement complet sur vos stations de ski. Un mois, c'est un mois de revenus, un mois de loisirs en moins, tout cela à cause du réchauffement climatique. Nous n'avons plus le temps. Vous devez faire quelque chose et j'ai pleinement conscience que ce que je vous demande est extrêmement difficile. Nous mettrons, si je suis élu, tout en œuvre pour que vous puissiez passer à des mobilités plus douces, pour que vous puissiez faire une transition écologique plus propre, pour que la France et l'Europe obtiennent leur souveraineté énergétique, mais ça ne se fera pas sans vous, sans les Français, sans l'accord de tous les gens qui habitent dans ces villes au patrimoine inestimable et à la beauté sans pareil.
Très beau discours, j'ai envie de voter pour toi. On lance un dé, on rajoute un. Et le
j'ai hâte de voir les Grenoblois monter à 2000 mètres d'altitude en vélo.
Ils le font c'est très bien six. En
oh là là là
et ils en sont bravis.
Alors c'est un 6 ou pas 6 oui.
Didier Vert pouvait-il rêver mieux? Le dernier meeting du candidat a impressionné, notamment cette ovation debout interminable dans une immense salle pleine à craquer, foule de militants aux couleurs du parti de Didier Vert et qui a chaviré à chacune des idées exprimées avec force, avec conviction par le candidat sur scène à la tribune.
Non, c'est même qu'ils vont en chier.
Tu gagnes,
ils sont contents, c'est très bien.
Tu gagnes 4 voix, voilà, plutôt orienté bobo vert. Et alors il faut que je le dise pour la personne qui fait les comptes, Victor, tu gagnes un retraité, un bobo, un précaire. Et c'est quoi le dernier? Fais voir. C'est un étudiant. Bravo et félicitations. Et Grenoble devient ton fief de campagne. C'est là
ah ouais,
que
ouais, parce j'adore que là, la ville en
toute
plus.
La ville t'adore.
Il y a un peu trop de voleurs de vélo, cela dit, mais sinon c'est extraordinaire.
Véronique, face à ces deux meetings incroyables, Portalis te dit je sais pas, il nous faut des voix, on est clean, on va pas leur trouver des dossiers. Moi je te propose soit on fait un meeting, soit on fait un. On peut aussi faire une déclaration choc à la télé par exemple.
On peut faire une déclaration de choc à la télé.
D'accord. Alors, tu choisis quelle chaîne de télé ?
J'ai déjà fait TF1. Je ne peux pas refaire TF1.
Vas-y. Oh, Chanouna.
Non, je vais faire un...
Oh, vous êtes copain avec Hanouna, quand même.
C'est soit ça, soit une vidéo YouTube avec ma fly.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh, non. Je vais faire TF1.
TF1. Donc, ouais. Tu retournes sur TF1,
ouais, habitué TF1,
de... Bah, cette fois, un samedi, avec ouais. Anne-Claire Coudray.
En dimanche soir.
Dimanche soir, d'accord. Dimanche soir, juste avant le film. Donc, tu toujours la même chose. Donc, on t'interview. Et là, tu peux t'exprimer. Vous êtes venu ce soir pour nous parler de quelque chose. Alors, les thèmes sur lesquels tu peux t'exprimer, c'est immigration et tout ce qui est associé, droit d'asile, identité, Brexit, service public, hôpital, je mets ma main vers Marcel, hôpital, école, public, justice, violence policière éventuellement, sécurité, écologie, retraite et sécurité sociale, diplomatie extérieure et l'armée. Sachant que on est...
Retraite.
Retraite, c'est parti. Je vous écoute.
Oui, je voulais m'exprimer ce soir auprès de vous parce que j'entends des propositions farfelues qui ne sont pas à la hauteur, je pense, des enjeux. Nos idées qui ont été mises en place ont porté leurs fruits avec cette majorité présidentielle à laquelle je suis fière d'avoir appartenu, même si j'ai décidé de faire mon chemin seule aujourd'hui. Grâce à la suppression de Pôle emploi et la création de France Work, nous avons commencé à éradiquer le chômage. Grâce à la création de France Stop au racisme et son hashtag le racisme, je dis stop, nous avons commencé à éradiquer le racisme. Grâce au programme Un agriculteur, un drone, un phyto, nous avons soutenu notre industrie terroir d'ailleurs, des phytosanitaires et des drones. Et aujourd'hui, je crois qu'il est l'heure de lancer France Retraite. France Retraite parce que nos anciens méritent de pouvoir continuer à vivre dignement. Et pour pouvoir avoir un langage de sérieux, il nous faut financer leur retraite. Et c'est pour ça qu'après des calculs, nous sommes rendus compte qu'il faudrait faire un départ à la retraite pour les plus jeunes d'entre nous à 70 ans. Voilà, et c'est ça toute l'ambition de France Retraite. Alors j'entends certains qui vont nous dire « vous voulez détruire notre modèle social ». Pas du tout. C'est justement pour pouvoir le conserver, ce modèle généreux, que nous sommes obligés, face à autant de responsabilités, de créer ce programme France Retraite, qui fait partie de notre programme, je vous l'appelle France France, la France de la win.
Alors je vais te donner une voix supplémentaire, même si c'est étonnant, parce que tu as un discours cohérent et qui présente une idée originale avec un slogan qui va bien. On va lancer un dé, on va rajouter un. Je suis un peu abattu, mais...
Je ne gagne pas des retraités.
Quatre, Jules de Kiss.
J'ai donné tout ce que je pouvais sur les retraités.
La déclaration choc de Véronique Solette est mise en avant et largement discutée sur les réseaux sociaux. On voit bien que ces idées impriment dans le débat et dans l'opinion, analyse un politologue.
Alors, tu gagnes une voix de super riche, mais en fait... Tu as aussi un autre pouvoir, c'est que désormais, dans les futurs débats, il y en aura deux. À chaque fois que tu placeras France Retraite en expliquant ce que c'est, tu gagneras une voix quoi qu'il arrive.
Ah. Oh là, ça va spammer.
Excusez-moi, c'est du travail aussi. Ouais. C'est des calculs.
Allez. L'inflation, c'est pas que sur l'argent. Hein.
Charles.
Oui.
Charles, donc... non, on l'a déjà fait.
On l'a fait.
On l'a fait. Donc c'est à toi, Marcel. Donc Ravaillac te dit un petit meeting.
Un petit meeting, bien sûr, on va aller à la rencontre du peuple.
Alors, meeting dans quelle ville?
Ah bah c'est...
Une lettre de l'alphabet.
Ah, le P.
Le P, ce sera dans une ville très peuplée, une autre ville de stream, Montpellier. 290 000 habitants, on se bat pour 4 voix. Donc, 4 voix, tu te retrouves à Montpellier et là tu dis, cher Montpellier c'est super parce que... Et Montpellier a un vrai problème qui est... Là, tu donnes la solution et après, on voit.
Très bien. Montpellierin, Montpellierin, on s'était manqué. Tant d'années que je ne suis pas revenu dans votre belle ville. Cette ville, évidemment, de la culture numérique qui accueille parmi la communauté la plus innovante du monde de la technologie que nous aimons. Et en même temps, cette ville qui a ses problèmes, bien sûr, un peu d'insécurité, de la pollution. Mais enfin, quelle ville n'en a pas? Je suis ici devant vous pour parler d'un sujet essentiel. J'ai changé tout mon meeting hier soir quand j'ai entendu Madame Solette sur TF1 parler de retraite à 70 ans. Alors là, écoutez, je me suis dit non. Parlons des choses sérieuses. La retraite à 70 ans, alors que, rappelons-le, un quart des Françaises et des Français les plus pauvres sont déjà décédés à 62 ans. Autant dire la retraite pour personne, sinon pour les plus riches. Alors, mesdames, messieurs, il faut dire ce qu'est la retraite. La retraite, au fond, c'est la continuation à vie du meilleur salaire. La retraite, c'est déjà le salaire à vie. Toutes celles et tous ceux qui disent qu'on ne peut pas payer 1500 euros par mois et plus pour ceux qui ont une activité particulière à toutes les Françaises et tous les Français, on le fait déjà. On le fait déjà. Ça s'appelle la retraite. Ça marche très bien. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais ça marche très bien. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est... Prenons exemple sur la belle sécurité sociale, la belle sécurité sociale d'Ambroise Croizat, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et poursuivons cette belle œuvre du bien commun. Allons enfin au bout, le salaire à vie pour tout le monde. Libérons enfin les Françaises et les Français des chaînes du travail.
Très bien, pour cette belle prestation.
Beaucoup d'énergie pour un glandeur.
On va rajouter un point, on lance un dé.
Il va faire un par le seum.
Les deux. Allez. Juste qui dis-nous.
La RNG contre moi. Il a bien, il s'est accroché comme il pouvait.
Un discours dans lequel le candidat était particulièrement convaincu, habité, mais visiblement ça n'a pas tant ému les foules. La salle est restée assez silencieuse. Les formules, se voulant humoristiques également du candidat, ont peiné à faire décrocher un sourire. Tout le monde n'avait pas les références qu'il évoquait. Certaines des blagues du candidat ont même c'est été terrible. Détournées pour devenir des mèmes sur internet.
Ouais. C'est terrible.
Le même, chers amis, vous m'avez manqué. Toi. En tout cas, néanmoins, tu n'obtiens pas zéro voix, tu obtiens deux voix.
Ah.
Parce que c'était en demi-teinte, mais il y a beaucoup de gens à Montpellier et tu avais fait un beau discours.
Oh là là, là.
C'est parti pour des petites aventures et Dieu sait que vous aimez
mais
ça.
Mais c'est dur parce que du coup, moi, je suis tombé sur Tours, que j'adore, bien sûr. Une très belle ville, Tours. Mais du coup, même si j'ai maxé Tours, j'ai gagné autant que sa prestation médiocre.
Ma prestation exceptionnelle.
À Montpellier.
La politique, malheureusement, c'est une question de chance. C'est pour ça que la moitié des voix vous viennent des viewers.
Monsieur Fibre Tigre, oui. Est-ce que je peux demander une précision?
Oui.
Est-on sûr que le logiciel du dé n'a pas été programmé par monsieur Charles de Spie?
Ah, il faudra demander à notre ami Victor Jolivet qui en régie.
Tout de suite, les théories complotistes. Hein.
Charles,
on vous reconnaît bien là.
Dis-moi un chiffre entre 6 et 52.
Entre 6 et 52, 21.
21, 2 euros le litre.
Attends, allez,
une seconde. 2 euros le litre. C'est parti. Donnez-moi une petite seconde et je préviens la régie que ça va, on va intervenir. Alors, attends une seconde. Je suis désolé. Ça arrive. Donc, tu es en train de faire un bain de foule à Valence.
Très bien.
Non loin de la célèbre cafétéria casino que tous ceux qui prennent l'A4 connaissent.
Mais bien sûr.
Et il y a quelqu'un qui sort de la cafétéria, qui est un automobiliste, qui t'interpelle. La régie, est-ce qu'on peut faire passer le son?
Vous dites que vous êtes le candidat des Français, c'est ça? Le candidat du pouvoir d'achat. Vous savez à combien il est le litre d'essence? À 2 euros. Moi, je fais 20 km par jour pour aller travailler. À quoi ça sert d'être payé s'il y a tout qui part dans l'essence? Ça va durer combien de temps, cette histoire? Et il paraît que l'essence, c'est 80% de taxe. C'est quoi ça? C'est pour faire plaisir aux bobos écologistes parisiens qui sont en vélo que vous faites ça, c'est ça? Parce que nous, on peut plus vivre. Hein. Alors, c'est impossible.
Il parle tellement bien qu'il y a d'autres automobilistes qui sont là et il y a aussi des caméras qui étaient venues te filmer, qui sont là en train de filmer. C'est en direct. Qu'est-ce que tu réagis? Comment tu réagis?
J'entends. J'entends cette requête et j'entends cette plainte, puisque je connais très bien ce casino et cette autoroute du Soleil à Valence, puisque moi-même, je faisais, quand j'étais pauvre, la route en voiture pour aller...
Ah, ça vous est arrivé?
Ouais, ça m'est arrivé.
Vous n'êtes pas là,
du coup.
Quand je faisais Paris jusqu'à la Côte d'Azur en voiture avec ma famille, telle des pauvres, eh bien écoutez, on passait par là. Et effectivement, à l'époque, l'essence ne coûtait pas cher. L'essence ne coûtait pas cher. Pourquoi l'essence coûte cher? Pourquoi l'essence coûte cher? Parce que nous ne sommes pas souverains. Encore une fois, la France n'est pas un État souverain. Nous dépendons énergétiquement, nous dépendons technologiquement, nous dépendons en intelligence, en logiciel, nous dépendons de tout. Et encore une fois, puisque mon candidat en pulmoer qui voudrait faire payer les pollueurs, voudrait faire payer du coup les Français aussi qui luttent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va attendre que le prix d'essence baisse, on va attendre qu'il y ait un territoire qui devienne un peu plus pacifié pour que le prix d'essence baisse. Ça ne marchera pas comme ça. Encore une fois, il faut de la disruption. Et quand je parle de disruption, encore une fois, je ne parle pas d'opportunisme comme le gouvernement macroniste qui est en règne actuellement et qui a détourné ce mot. La disruption, c'est un changement radical. Un changement radical. Et sous ma royauté, encore une fois, je le redis, nous accélérons la transition pour arrêter les transports thermique individuel que nous devons payer et acheter.
Merci beaucoup. Hélas, traiter les gens de pauvres devant les caméras, c'est pas génial. Alors, tu vas me donner une classe moyenne si tu en as une.
Ouais.
Et je te donne un super riche. Je quand même apprécie que tu appelles les gens les pauvres. Voilà. Désolé pour le fond.
L'honnêteté, il faut pas l'honnêtement français.
Et oui, l'honnêteté, la politique, c'est très problématique. Véronique,
oui.
Un chiffre entre 6 et 52.
15.
Une seconde. 15. Le drapeau de l'Arc de Triomphe. Et là encore, la régie.
Oh, oui.
La régie, on l'appelle.
Vous avez un avis
non,
sur
non,
la
non, non, la régie, non, pas tout de suite le son. Pas tout de suite, pas tout de suite.
La régie est au taquet.
Pour célébrer la présidence dans la France, de la France dans l'Union européenne, un drapeau européen est venu remplacer le drapeau un drapeau européen est venu remplacer le drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Cela a donné lieu à de violentes réactions de divers politiques, rappelant que le drapeau flotte sur la tombe du soldat inconnu quand même. Éric Zemmour d'ailleurs tweet l'Arc de Triomphe sous Macron 2 points après le saccage et l'empaquetage, l'outrage. D'ailleurs, l'affaire fait tellement parler que à retour de ton interview où tu as présenté France Retraite, un citoyen t'interpelle. Et écoutons l'un de citoyens.
Vous avez un avis sur l'affaire du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe? Est-ce que pour vous la présidentielle, c'est la France avant l'Europe ou l'Europe avant la France? Vous, président, vous auriez mis ce drapeau?
Que lui réponds-tu?
Pour moi, c'est la France et l'Europe. C'est la France avec l'Europe, c'est l'Europe avec la France. Je crois que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui aux gens pour qu'ils puissent le comprendre. L'Europe est une chance pour la France est une chance pour l'Europe. Et alors, il faut aussi savoir que ce drapeau n'est pas là habituellement. Hein. C'était juste pour pouvoir le célébrer, comme on fait plein de célébrations. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à célébrer le monde et la mondialisation, car c'est une force pour notre économie. Et maintenant, j'espère vraiment que je vais pouvoir reparler après cet épisode d'une polémique stérile de mon programme France Retraite.
Merci beaucoup. Alors, je vais proposer à tes concurrents de réagir en une phrase.
J'ai gagné des voix, là.
On va voir.
J'ai dit France Retraite.
C'est juste en débat.
C'est juste en débat, mais peu importe. Juste, est-ce que vous voulez réagir ou pas en une phrase?
En une phrase, oui, c'est simple. On voit encore une fois le manque de sérieux de Madame Solette qui dit c'est la France et l'Europe, l'Europe et la France, et qui se réjouit qu'on mette uniquement le drapeau européen à Madame le soldat inconnu. Ça n'est pas rien.
Charles, Didier, rien ?
Le problème de l'écologie, c'est un problème mondial. Évidemment, nous devons œuvrer tous ensemble pour une planète plus propre. Les drapeaux, ça n'a aucune importance.
Charles ?
Écoutez, cette femme pense que l'Europe est une opportunité. Nous savons très bien que l'Europe est un piège. Il faut revenir à une souveraineté nationale.
Très bien. Il n'y a personne qui se détache de ça, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Et enfin, Didier. Didier, un chiffre entre 1 et 52.
1. Pourquoi alors, tu rigoles?
Je dis parce que c'est une aventure que j'adore.
Ah,
et tu vas être un candidat idéal
pour ça. Tu l'as écrit et tu l'adores. Tu kiffes un peu,
ouais.
Fibre, hein.
Oh, vous allez voir, là, surtout, ne zappez pas. Au minéral, te dit... j'ai Karine Le Marchand qui veut te parler.
Oh, trop bien!
Alors, elle te dit bonjour. Bonjour, c'est Karine. J'ai une émission sur M6 qui s'appelle Une ambition intime. On aimerait vous recevoir.
Ouais.
Alors, tu acceptes?
Bah ouais, je fais mon footing avec elle tous les matins.
Très bien. Alors, dis-moi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis-moi deux chiffres entre 1 et 6.
Entre 1 et 6, 3 et 5.
3 et 5. Donc, tu vas. Ce soir, il y a 500 000 précaires qui regardent la télévision et également 500 000 entrepreneurs. Ça veut dire que tes réponses ambition intime, il faut qu'ils parlent à ces gens-là.
Okay.
Des précaires et des entrepreneurs en même temps.
Ouais. Par contre, qui ne regarde pas ambition intime ou en tout cas ne voudrait absolument pas dire qu'ils la regardent, c'est les bobos. Donc, tu vas me donner un bobo tout de suite.
Alors qu'on sait très bien que les bobos...
Ouais, ouais.
Ils
le marchand et les bobos, excuse-moi.
Non, mais ils commentent sur Twitter. Ouais,
voilà, et ça, ils commentent sur Twitter. Alors, vous êtes assis sur un canapé, et voilà, c'est normal.
On est face à face quand même.
Oui, bien sûr. Alors Didier, oui. Parlez-nous de votre enfance.
Mon enfance?
Oui, parlez-nous de votre enfance.
À mon enfant.
Sachant que précaire, entrepreneur.
À mon enfance, ça a été une enfance très très simple. Hein. Je viens d'une famille d'ouvriers. Je me suis lancé dans le milieu associatif très rapidement dès mon adolescence. Et j'ai dû travailler par moi-même. Pour arriver là où j'en suis. Et je remercie évidemment à la fois mes parents d'avoir été toujours là pour moi, mais surtout notre système d'éducation qui m'a grandement appris sur le monde.
Avez-vous jamais eu des complexes?
Des complexes?
Ouais, Didier.
1m68, ce qui fait que je fais 10 cm de moins que toi, Karine. Ça me complexe un tout petit peu, mais je pense que dans le monde moderne, on a besoin d'hommes un peu plus petits.
Et dans votre enfance, est-ce qu'un professeur vous a marqué ?
Oui, professeur de mathématiques qui m'a beaucoup inspiré. Il m'a appris que parfois, les solutions ne sont pas évidentes aux problèmes.
Votre plat préféré, Didier ?
Mon plat préféré, les spaghettis bolognaises végétariennes.
Et donc, vous remplacez la viande par quoi, les boulettes ?
La viande par un mélange de boulgour et d'aubergine. J'adore l'aubergine.
Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un séducteur, Didier ?
Ouais, on me prête quelques phrases, que c'est vrai, mais bon, on va dire que j'essaye d'avoir un esprit libre dans un monde difficile.
Quel est votre rapport à la nature, Didier ?
Je suis très proche de la nature et j'essaye de la préserver autant que faire se peut. Je déplore d'ailleurs de la voir disparaître sous mes yeux un peu plus jour après jour.
En tout cas, c'est une bonne émission qui te fait gagner 500 000 précaires. Voilà, tu n'as pas trop parlé entrepreneuriat, mais ce n'est pas grave. Et enfin, Marcel, je t'écoute, un chiffre entre 1 et 52.
44.
44, chiffre maudit.
tu vas voir Radio Courtoisie.
45 heures par semaine.
Oui. Ah.
Alors, attends. Pourquoi ? Parce que 4 veut dire la mort dans l'Asie. Nous sommes le dimanche 23 janvier 2022 et notre président Macron s'exprime sur sa vision du travail. Il imagine un monde où les gens ne travailleraient pas 35 heures par semaine, mais 45 heures jusqu'à 30 ans, puis disons de moins en moins pour atteindre pourquoi pas 20 heures ou moins à 50 ans. Donc, ton conseiller de campagne, Ravaillac, te dit franchement, j'en peux plus. Toi aussi, t'en peux plus. Il faut qu'on réagisse. Il y a un truc. On va. Là, il faut sortir la phrase choc qui dit que il faut nous positionner. Je t'écoute. Comment tu réagis sur Twitter, à communiquer ou quoi que ce soit ?
Non, je me filme avec mon téléphone portable et je vais diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, bien sûr, chez moi, dans mon appartement très simple. Et je dis, mesdames, messieurs, les choses sont claires, le gouvernement, l'État a décidé de régenter jusque chaque aspect de la vie des citoyennes et des citoyens. Monsieur De Spy propose la royauté numérique, on voit bien que nous sommes revenus à la royauté d'ores et déjà économique, puisque Monsieur Macron a décidé de comment nous allions vivre notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Il a décidé combien de temps nous allions dédier au patronat chaque jour que Dieu fait ou chaque jour qui se lève sur cette terre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut résoudre le problème à sa racine. Sortir du salariat, sortir de la relation de dépendance des travailleurs à l'égard de ceux qui possèdent le capital capitaliste. C'est tout ce que je propose.
Alors, il y a des gens, des spectateurs, mais que j'interprète comme des citoyens, qui sont surpris que tu aies un smartphone. Est-ce que tu veux te justifier là-dessus ?
Bon, écoutez, alors là, bien sûr que non. Vous savez, on vit inséré dans un système. Je vis comme vous, comme tout le monde, inséré.
Et soudain le whataboutisme.
Inséré dans un système économique. Et donc, oui, je vais vous dire, j'ai un smartphone. Et oui, je vais vous dire, je trie mes déchets comme je peux, mais je ne suis pas exemplaire. Et c'est bien normal. Mais en effet, c'est vrai que moi, président de la République, nous ne changerons pas toutes et tous de téléphone portable tous les 2 ans. Non, ce sera fini. Moi, président de la République, nous ne renouvellerons pas notre garde-robe tous les 2 ans à l'aide de la fast fashion qui est produite par les Ouïghours dans des conditions qui sont celles de l'esclavagisme.
Alors,
en effet.
Il y a un spectateur réagit, puisque c'est un live, je me permets de réagir, et il dit « Je ne comprends pas, vous accusez M. Macron de vouloir régenter tout sur notre vie et vous nous empêchez d'acheter des smartphones. »
Mais écoutez, la véritable question qu'il faut se poser, chers viewers,
oui.
La véritable question qu'il faut se poser, c'est « Comment serons-nous plus heureux ?» Est-ce que vous pensez que vous serez plus heureux en travaillant 45 heures par semaine, en dédiant les plus belles années de votre vie, votre jeunesse, à quelqu'un dont le seul mérite est d'avoir hérité de l'entreprise de son père ? Est-ce que c'est comme ça que vous pensez que vous serez plus heureux ? Ou est-ce que vous serez plus heureux en décidant ce que vous voulez vraiment faire ? En choisissant à quoi vous voulez consacrer vos journées ? Vous voulez écrire de la poésie, jouer de la guitare ? Vous voulez produire une activité artistique ? La société sera là pour vous y aider. Vous voulez faire une activité productrice ? La société vous rémunérera en argent. Ça, c'est la véritable liberté. Alors peut-être, oui, que nous aurons des biens un peu moins superficiels. Peut-être que même nous allons un peu décroître en biens, mais nous allons croître en bonheur.
Merci, tu gagnes pas de voix, mais.
Pourquoi ?
Le discours était très beau.
Mais pourquoi je gagne pas de voix ?
C'est le moment
c'est
du
dégueulasse.
Non, mais il a rien dit, on sait que t'as rien dit. On
c'est le moment du deuxième petit débat. Il y a des conditions.
Mais tu l'as bien dit.
Quand vous achèterez les règles, on vous dira. En tout cas, c'est le deuxième débat. C'est un débat sur les discriminations et le féminisme. Alors. Deuxième débat, nous sommes à nouveau France 2 et Radio France.
Accompagnés France Info, on France, est sur France,
France Info,
Info
avec Jules De Kiss, voilà exactement. comment comptez-vous, chers candidats, tous réunis, rendre notre société plus égalitaire, lutter contre les discriminations? On parle des inégalités hommes-femmes dans un instant, mais premier sujet, Jules De Kiss. La lutte contre le racisme.
Avec cette actualité édifiante sur les discriminations raciales dans l'accès au logement. La remise, c'était il y a deux jours, d'une grande campagne de testing menée par SOS Racisme en partenariat avec France Info. L'idée, c'était de voir si les agences immobilières acceptent ou pas de discriminer des profils de locataires noirs ou maghrébins sur demande d'un propriétaire. Un propriétaire fictif, on appelle les agences, on leur demande. Et la réponse, c'est que oui, pour près de la moitié de 136 agences testées. On écoute les précisions de Féline Leloir-Duo.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je souhaiterais avoir des renseignements.
Chaque agence est contactée par un militant de SOS Racisme qui se fait passer pour un propriétaire qui veut mettre un appartement en location. Le faux propriétaire demande alors que les profils de personnes noires ou arabes ne soient pas sélectionnés comme locataires. Une demande acceptée et même approuvée par cette agence.
Alors là, je vous rejoins complètement. Pour avoir vécu plusieurs communautés différentes dans des copros, effectivement, entre la cuisine qui est différente, entre les religions qui sont pas pareilles, effectivement, ça peut être vite le bazar. Ouais, je suis d'accord avec vous.
D'autres avouent même pratiquer ce genre de discrimination, comme la directrice de cette autre agence.
Enfin, après, on n'a pas le droit de le faire, hein, mais moi, je le fais déjà dans la sélection de mes rendez-vous, en fait. Ben oui, non, mais après, moi aussi, hein, j'ai des quartiers, voilà, on est dans un quartier assez aisé, j'ai envie de vous dire, et on peut pas placer n'importe qui. Je comprends tout à fait ce que vous voulez me dire. Je le fais automatiquement, entre guillemets. Voilà.
Sur les 136 agences testées par SOS Racisme, la moitié accepte de discriminer certains profils ou bien de laisser le propriétaire faire lui-même la sélection. Pour rappel, la discrimination à la location est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Je rappelle, hein, j'insiste, qu'on est vraiment dans un reportage dans le réel. Hein, ce n'est pas des témoignages, etc. C'est un reportage diffusé sur France Info il y a deux jours. SOS Racisme réclame un renforcement des sanctions pénales sur la discrimination au logement, mais aussi la mise en place obligatoire du dossier anonyme pour les locataires qui veulent trouver un logement.
Alors, je réagis avant de vous laisser la parole et je laisserai Charles parler en dernier parce que je le sens transpirer. Et je laisserai peut-être Didier parler en premier parce qu'il a beaucoup réagi pendant ce reportage. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on parle du CV anonyme, qu'on parle de ces dossiers anonymes. Souvenez-vous, Chirac, c'était il y a 1000 ans, le bruit et l'odeur. Et on en est encore au même point. Donc vous, président, est-ce que... J'imagine que vous avez envie de lutter contre les discriminations et le racisme en particulier, mais quelles sont vos solutions, Didier ?
Le problème, il est ancré dans notre société, dans les mauvais réflexes de notre culture. Moi, président, je serais intransigeant avec la discrimination, qu'elle soit de la discrimination raciale ou qu'elle soit de la discrimination de genre. Et j'ai même envie de dire de la discrimination sociale. Nous ne pouvons pas laisser passer des choses comme ça. Dans son propos, la dame de l'agence le dit elle-même.
C'est illégal, mais bon, on s'en fout, on le fait quand même. Bah non, tu le fais pas quand même. Tu prends et tu dégages. Voilà, c'est une pénalité.
Mais vous, président, vous pouvez pas rentrer dans l'agence immobilière en disant tu dégages.
Ah, vous pensez.
Mais vous pouvez pas faire dans toutes les agences immobilières.
Vous pensez France Info réussit à y aller, et moi, vous pensez, en tant que président, je ne peux pas le faire? Bien sûr que si, je ne peux le faire. Et si je devrais m'aider des services publics, des enquêtes pour dessalir toutes ces agences immobilières de leurs pratiques absolument dégueulasses, je le ferai. Visiblement, la France n'est pas prête à faire ces choses-là tout seul. Ça sera donc au rôle du gouvernement et de l'État de leur imposer s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. La richesse culturelle, c'est une richesse énorme, bien plus importante que la richesse monétaire que voudrait nous faire croire les autres candidats.
En deux mots, puisque conserver. La loi existe déjà, vous voulez qu'il y ait des enquêtes qui soient faites et des interventions policières, par exemple.
Évidemment, bien entendu. On fait tout depuis des années pour aider à l'égalité à la fois de l'accès au travail et de l'accès au logement. Ça n'agit pas. Et c'est le gouvernement Macron qui a encore péché sur ces problèmes-là. Encore une fois, durant ce quinquennat, nous devons absolument mettre fin à cela. Pourquoi est-ce qu'encore certaines nationalités n'ont pas le droit d'avoir accès au même logement que les autres? Ça n'a aucun sens. Même certains ont les moyens de payer.
On a compris votre énervement sincère qui nous touche beaucoup. Mais je voyais en arrière-plan Véronique qui disait non, c'est n'importe quoi. Dites-nous, quelle est votre position?
Ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes choses. Il faut que l'État intervienne. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Moi, je suis choquée par ce que j'ai entendu. Je vais vous dire, je suis choquée. Et je vois que notre programme France Racisme
est un échec.
N'a pas apporté ses fruits. Mais nous, nous sommes en responsabilité, nous travaillons, nous faisons des propositions, nous verrons si un jour vous accédez au pouvoir.
Et nous sommes réellement pour l'égalité ici, dans notre parti.
Nous verrons, monsieur, apparemment, les Français n'ont pas l'air de vous trouver très sérieux compte tenu de votre score. Donc nous allons poursuivre ce travail. Je crois que nous allons commencer
l'égalité mathématique.
Tout d'abord, nous allons commencer par mettre en place un numéro vert, je crois que c'est important, France Discrit, où nous allons pouvoir commencer à recueillir la parole des uns et des autres, ce qui donnera lieu à un rapport et à d'autres mesures, peut-être à base aussi de hashtags. Et aussi, je tiens à dire que nous avons travaillé, vous savez, il y a des programmes qui me tiennent à cœur, ce que je fais, on en reparlera peut-être, avec la Fondation Dassault, dans tout ce qui est le domaine de la paix. Et il y a aussi tout un programme avec lequel je travaille, de la Fondation Bank. On a tout un programme sur le racisme, justement la lutte contre les discriminations, et avec les géants de la tech, avec aussi toutes les écoles de commerce, on commence à travailler pour mettre en place un véritable projet de discrimination positive, parce que c'est dès l'éducation que cela commence.
Alors, excusez-moi de rebondir sur vos propos, mais je ne comprends pas le concret de vos mesures. C'est-à-dire que je vois des rapports, mais je ne vois pas en quoi, par exemple, l'industrie immobilière, telle qu'on l'a entendu dans ce reportage, va changer grâce à ça. Et quand vous parlez de discrimination positive, c'est un terme qui a été, sous Sarkozy, déjà bien évoqué, et qui finalement n'a abouti à pas grand-chose.
On a vu à Sciences Po des résultats positifs dans le domaine. Et vu que l'État n'arrive pas à faire appliquer certaines lois, moi je pense qu'il faut travailler avec toutes les parties prenantes et justement avec les industries et les secteurs concernés, car c'est eux, à mon avis, qui ont la clé.
Marcel.
Écoutez, Monsieur Didier Vert, qui, comme souvent d'ailleurs, a dit des choses qui étaient qui commençaient bien et qui s'arrêtaient au milieu du guet. Mais comme Monsieur Didier Vert, je suis profondément choqué par ce que nous avons entendu. C'est insupportable. C'est l'expression la plus pure et la plus décomplexée du racisme. Et évidemment, c'est inacceptable dans notre société. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? Et je vais vous le dire dans un instant. Je ne parlerai évidemment pas un instant de ce que vient de dire Madame Solette, qui propose tout simplement de créer un numéro vert, des hashtags. Elle fait
France... De refaire comme avant.
De refaire France Racisme. Bon, on n'a pas compris. Encore une agence, encore des commissions, encore des rapports. Bon, écoutez, à nouveau, Monsieur Fibre-Tigre, pardon, mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent et il ne suffit pas de parler à la légère pour avoir un impact en politique. Alors, Monsieur Vert, j'ai entendu votre émotion sincère et je vous ai entendu hurler presque dans votre micro. Moi, je serai intransigeant avec le racisme, c'est très bien. Mais comment allez-vous faire concrètement? Vous allez envoyer...
Que les solutions ne se font pas en un jour.
Comment?
Ça, c'est vrai.
Alors, moi, je vais vous dire...
Par contre, la répression envers...
Marcel a une réponse en un jour.
Je vais vous dire, en un jour, c'est très simple. Parce que le problème de tout ça, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, revenons à la racine. C'est qu'on a des propriétaires qui possède 3, 4, 5,
encore
10 appartements.
Mais parce que,
regardez, c'est simple. On a des propriétaires qui possèdent une flotte entière d'appartements et qui font la pluie et le beau temps sur la location. C'est-à-dire qu'eux s'en mettent plein les poches. Ils font payer des tarifs complètement délirants. Moi, j'habite à Paris. Je peux vous dire que se loger à Paris, c'est compliqué. Des tarifs délirants à des étudiants, à des jeunes précaires, à des travailleurs qui n'en peuvent plus. Et ça leur donne un droit de vie et de mort. Parce que c'est de ça qu'on parle sur les uns et les autres. Toi, tu rentres, toi, tu rentres pas parce que tu n'as pas le bon nom, tu n'as pas la bonne religion, tu m'inquiètes un peu. Donc, le problème, c'est la propriété privée des moyens de l'habitat. Donc, qu'est-ce que je propose? Ma proposition est simple. Vous savez, nous avons déjà des offices HLM, vous êtes peut-être au courant, qui sont gérés en commun et ça fonctionne plutôt pas mal.
Sont occupés par la politique.
Alors, ce qu'on va faire, exactement. Je comprends, monsieur Despie, que tout ça vous gêne. On va tout simplement réquisitionner les flottes d'appartements, on va
en finir avec ces personnes qui possèdent des millions et des millions d'euros en pierres qu'ils n'habitent pas. Nous allons réquisitionner les logements vacants, de nombreux bureaux, les logements qui sont tous possédés par les mêmes personnes. Et tout simplement, nous allons mettre en place un programme d'accession à la propriété de la part de l'État qui va permettre à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont le malheur d'être encore propriétaires d'acheter un appartement à un bien à un prix extrêmement bas. Voilà encore une fois le problème, c'est la propriété
privée. Merci beaucoup Marcel. On n'est pas surpris. Par contre, l'expropriation Day One aurait pu être une solution pour les Ukrainiens. Charles, je vous écoute sur ce sujet de la discrimination. Avez-vous aussi, tel votre partenaire, une solution en un jour, peut-être même en une demi-journée, puisque vous êtes efficace?
Alors, ça tombe bien parce que je viens de recevoir un petit mail dont chef projet, Verse AI, avance très vite. Et donc, on est passé de 3 ans pour la version 1.0 à 18 mois pour la bêta. Et je publierai ce soir sur GitHub une version alpha ouverte à tous en code libre pour que tout le monde puisse tester.
D'accord, voilà. Mais le racisme.
Est-ce qu'on peut rappeler juste un instant que la personne qui lui a envoyé ce mail-là s'appelle Skynet?
Voilà.
Donc, je note.
Verse AI, ce logiciel, encore une fois, résout un problème compliqué. Le problème de gouvernance n'est pas un problème humain. Et encore une fois, comme tous les débats pour la discrimination, pour l'essence, pour l'écologie, on essaie de faire confiance à des gens. Mais les gens, ils vont bidouiller là-dessus. Vous savez très bien, et je sais que je suis cru et que je dis les mots. Ici, il ne faut pas dire aux gens, ce n'est pas bien de discriminer, je vais te punir. Non, il ne faut plus leur donner le choix à ce moment-là. Moi, président, et via Verse AI, toute forme d'inscription, toute forme de concours, toute forme de demande passera par le logiciel de manière anonyme et ne jugera que des dossiers, des performances et non pas des origines, des noms, des couleurs.
Et vous garantissez l'impartialité du logiciel ?
Tout à fait. Tout à fait. Je vous rappelle que ce logiciel sera avec un code libre que tout le monde et tout à chacun pourra regarder. Il sera mis à jour constamment par ma société qui deviendra une partie du gouvernement. Regardez. Bah, après, vous pouvez faire des forks si vous le voulez, si vous savez développer, bien sûr. Je n'en suis pas sûr.
Je sais développer. Bon. Merci beaucoup.
Mais plus sérieusement, la discrimination est un problème humain. Et c'est un humain qui vous le dit. C'est un problème profondément humain. Vous n'enlèverez pas la discrimination. Vous n'enlèverez
pas. Ce n'est pas une solution qui est mise en place en Chine dans ce débat ?
Il y a des systèmes en Chine, mais qui ne sont pas très bien faits. On ne va pas se mentir, parce qu'il y a des débordements du gouvernement là-dessus.
C'est la Chine française.
Non, je ne veux pas, parce que, encore une fois, on a déjà la Corée. Voilà. Nous, on va rester en France. Encore une fois, vous ne retirerez pas les défauts humains qui sont les biais, la peur d'être petit, d'être des rats.
Vous savez, voilà. Monsieur, les algorithmes ont les biais de ceux qui l'ont programmé.
Exactement.
Vous le savez, vous essayez de le cacher.
Mais les algorithmes pourront agir vite. Et encore une fois, moi, président, toute personne aura un dossier anonyme lorsqu'elle cherchera un emploi, lorsqu'elle cherchera un crédit, lorsqu'elle cherchera un logement. Il n'y aura pas de nom de prénom.
Monsieur Despie, expliquons quand même aux Français comment fonctionnent les algorithmes d'intelligence artificielle.
Non, ce n'est pas le sujet, on ne va pas en parler.
Par contre, on peut souligner quand même que Versailles, c'est très joli, mais dans l'immédiat, ça ne résout absolument pas le problème de tous nos concitoyens et concitoyennes qui sont victimes de racisme.
Il y a des gens qui croient en la technologie et finalement.
Dans 18 mois au mieux.
J'adore parce qu'encore une fois, le reportage de Jules Lequis et de Radio France, c'est un reportage que j'aurais pu sortir sur la chaîne YouTube de l'INA. C'est un reportage que j'aurais pu écouter sur le RTF. C'est quand même bizarre que ces reportages ressortent tels des marronniers tous les 5 ans en élection et que la situation française ne change rien. Le point commun, c'est l'humain.
On a terminé cette partie. Maintenant, j'avertis nos spectateurs que nous allons lancer un sondage, mais il y a une deuxième partie à ce débat pour voter et sur le sondage passé et sur la partie passée et sur la partie à venir. Nous allons maintenant aborder un sujet essentiel, Jules Dequisse, un sujet brûlant, l'égalité femmes-hommes.